Point de vue. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission Point de vue, une émission proposée par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Bonjour Diane.
Bonjour Michel.
Vous allez bien?
Très, très bien, vous-même?
Ça va très, très bien. Nous avons une autre émission aujourd'hui avec des invités de marque et on va débuter tout de suite avec la présentation de notre premier invité.
Oui, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous M. Dory Jade. M. Jade est président directeur général de l'Association des professionnels en immigration du Canada. Il est diplômé en gouvernance corporative de l'Université McMaster de Hamilton et est bachelier en publicité et marketing de l'Université Notre-Dame au Liban. Il a reçu une importante distinction de l'Association canadienne des professionnels en immigration en 2014 pour son courage, sa détermination, son leadership et son engagement. Bonjour, M. Jade.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité.
Bonjour, M. Jade. Merci infiniment d'avoir accepté justement cette invitation. Je crois, Diane, que nous aurons une émission très stimulante et très déterminante pour les gens qui nous écoutent. Monsieur Jade, notre première question s'adresse directement à ce que vous vivez. Vous avez une cécité partielle qui provient d'une maladie rare. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, merci. En fait, moi, j'ai une maladie rare qui s'appelle la dystrophie des cônes et des bâtonnets de l'œil. En fait, c'est une maladie qui est classée rare et qui est dégénératrice. Souvent, elle va paraître à la mi-trentaine. Il y a d'autres gens qui l'ont au début de la vingtaine. Alors, cette maladie-là en fin de compte, elle va causer une cécité totale pour 77 % des cas, selon les statistiques. Les recherches sont pas très poussées là-dessus. Vu que c'est maladie rare, toutes les maladies rares ont de la difficulté à avoir des fonds pour la recherche en vision et autres. Je vis avec ça présentement. Je perds la vue continuellement et présentement, je vis avec ça, mais comme vous voyez, je continue à me battre et à avoir vraiment une vie presque normale avec ma famille qui m'entoure, puis tout le monde.
Vous avez quel âge maintenant, M. Jean?
Présentement, j'ai 43 ans.
Donc, on peut dire que ça fait à peu près 13 ans là, que vous avez eu des signes.
C'est ça. Ben, je suis né avec. J'ai les signes depuis la naissance, mais il n'y a pas personne qui était capable de la détecter. Ils ont pensé que c'est une myopie sévère. Alors que finalement, quand la maladie s'est devenue de plus en plus complexe, ils ont pensé que c'est une presbytie précoce. Et c'était pas le cas non plus, jusqu'à ce que le diagnostic est tombé il y a à peu près 6 ans maintenant, de vraiment clarifier c'est quoi la situation. Et de là, on a compris qu'il n'y a pas de cure, il y a juste du soutien et de changement de façon de vivre.
Monsieur Jade, quand on a un diagnostic comme celui-là, comme il y a 6 ans, comment on s'adapte à cette réalité-là? En fait, d'abord, la nouvelle, comment vous l'avez reçue, comment vous l'avez vécu, comment vous vous êtes adapté?
De ma part, juste un peu dans mon histoire de vie, si vous voulez, j'ai reçu la nouvelle une journée avant mon anniversaire. J'ai reçu la nouvelle un 26 de juin et c'était trop dur. Je m'attends parce que le problème, c'est que au début, oui, tu perds la vision, mais quand on te parle de myopie, de presbytie, de d'astigmatisme, ça, c'est des termes très connus puis réglables. Il y a d'autres mondes qui disent « Ah, du laser, ça va arriver à quelque part. » Ça va, c'est comme, tu as toujours de l'espoir et d'un coup, tu as le coup final qui va vraiment trancher et te dire « Bon, regardez, vous ne pouvez plus voir. C'est fini. » c'est une maladie qui n'a pas de cure. Alors, ça, c'est très, très, très dur. J'ai passé par une dépression très sévère. Souvent, je donne un exemple très simple pour qui est peut-être visible à tout le monde, un peu vulgariser la situation. Les gens mettent de l'argent dans la bourse souvent ou des REER, des choses comme ça. Puis parfois, ils voient chuter, puis ils paniquent. OK, disons, ils ne font pas de dépression, mais ils paniquent. Oh mon Dieu, je vais en avoir suffisamment. Alors que mettez-vous à la même place d'une autre personne qui perd la vue, puis qui n'est pas capable de la récupérer, et c'est la vue. Alors, à comparer avec un peu d'argent, c'est très grave. Et de là, tu te rends compte, il y a une période, souvent les psychologues, ben j'ai travaillé avec l'INLB, certainement, c'est là où j'ai eu mon soutien exceptionnel, puis je suis très reconnaissant, puis c'était très apprécié. Quand vous communiquez avec un ou une psychologue, il parle de période de deuil. OK, ça c'est des termes peut-être utilisés souvent, mais moi je l'appelle autre chose, moi je l'appelle la période d'acceptation. Oui, le deuil, peut-être, ils parlent, eux, que c'est le deuil de la vision, donc un deuil sur ce que tu avais ou ce que tu as perdu. Mais moi, je pense qu'il faut que tu acceptes la situation. Si tu es capable d'accepter la situation comme personne, à ce moment-là, vous pouvez vraiment aller de l'avant. Et c'était ça le point tournant. J'ai atteint une dépression qu'on appelle dans le terme des médecins trouble d'adaptation. Donc, ce n'est pas une dépression parce que la dépression, elle a d'autres symptômes médicaux. Je ne suis pas médecin, mais c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Il y a aussi des facteurs génétiques, d'autres facteurs. Moi, je n'ai pas ces facteurs-là, j'ai ce qu'on appelle un trouble d'adaptation sévère. Donc, tu t'adaptes à une situation, c'est très difficile. Et de là, j'ai commencé un traitement médical, certainement soutenu par les NLB. J'ai atteint mon maximum de dépression une journée. Ben, ça s'est accumulé, il faut juste comprendre que c'est une longue période où je ne pouvais plus me lever de mon lit. C'était rendu comme 2 heures de l'après-midi, puis c'était comme si c'était minuit, puis tu avais pris 2 bouteilles de vin. C'était trop dur. Et à ce moment-là, j'ai rappelé les NLB pour voir si quelqu'un pourrait m'aider, et c'est de là que ça a commencé.
Ça demande tout ça une réorganisation au niveau de sa vie?
Énorme.
Ça demande beaucoup d'efforts.
Le problème majeur, juste pour vous clarifier ça, c'est que une fois vous avez accepté la situation, ça ne s'arrête pas là. C'est que les gens autour de vous doivent vous accepter comme vous êtes et aussi comprendre que vous pouvez être autonome. Donc, c'est ça la complexité. En premier, le travail. Les gens doivent être sensibles à cette situation-là parce qu'une personne à déficience comme moi a besoin de beaucoup plus de temps pour faire le même travail qu'une personne normale. Ça, c'est en premier. Deux, il faut que vous choisissiez ce que vous faites. Et je donne des exemples. Je donne un exemple concret. Moi, je n'ai plus de compte Facebook. OK, pourquoi? C'est parce que, de un, il faut que je mette des priorités dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire au cours de 24 heures, considérant que je dois dormir 8 heures? Ce qui me reste, donc, c'est vraiment beaucoup d'organisation. Pour une personne régulière, elle peut peut-être passer 5 minutes sur Facebook, puis voir, telle a fait telle, puis voir un peu les médias sociaux. Pour moi, c'est un minimum de 30 à 50 minutes pour voir ou regarder ou lire le même contenu. Donc, ça, c'est un fardeau que ça ne me tente pas de porter. Puis, ceux qui veulent savoir de moi, ou moi, je veux savoir d'eux, ils vont communiquer avec moi autrement. Toutes les communications, par exemple, texto, WhatsApp, tout ça, c'est très limité à du monde très proche de moi. Donc, je continue à être actif, mais beaucoup plus restreint. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mise sur le travail. Ça, c'est mon organisation numéro un. C'est une priorité. Donc, je dis, bon, en premier, je donne mon temps au travail, les 8 à 9 heures que je dois faire au travail. Et ça, ça va continuer à me donner le reste de ma vie très bien organisée. Parce que lorsque j'ai vérifié avec toutes les assurances que j'ai, ainsi que les fonds de pension et le travail que j'ai fait durant les 15-20 dernières années, avec la régie des rentes, tout ce revenu-là ne pourra pas me maintenir un mode de vie que je vivais et je continue à vivre. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, bon, priorité numéro un, c'est mon travail. Alors, toutes les autres choses, je les ai mis en second. La priorité numéro deux, et c'est certainement, elle est en principe numéro un, mais numéro deux, c'est la famille. Et je parle, quand je parle de priorité de la famille, c'est plus les sorties, les activités, les arrangements, les activités des enfants. Tout ça, c'est après le travail. Si tu n'as pas le travail, tu ne peux pas le mettre dans les activités. Donc, c'est, ça va de soi. Et c'est là où, de ma part, je mets le plus de mon temps. J'emmène les enfants, par exemple, tous les jours à la garderie avec le transport adapté. J'emmène mon fils à ses activités. Je reste là. Parce que comme parents, vous savez que vous allez emmener vos enfants, puis vous allez rester avec eux. Okay? C'est sûr que de ma part, je perds le goût. C'est pas le goût, mais je perds l'avantage des voyants à voir mon fils jouer. C'est pas évident. Souvent, j'utilise un peu les longues vues ou d'autres choses, mais c'est pas évident. C'est pas aussi évident que ça. Les gens autour de moi, les papas, mamans du voisinage et de l'école se sont adaptés à ma situation aussi. Ils viennent me voir parce que moi, je leur ai dit, regardez, j'étais très impliqué avant dans le quartier. Je faisais du coaching des enfants au soccer pour plusieurs années. J'étais impliqué dans plusieurs activités. Certainement, j'ai coupé ça. Et donc, je suis connu par le milieu. Donc, eux, ils se sont adaptés, puis ils savent que j'étais sociable. Puis c'est eux maintenant qui viennent me voir, puis dire « Hey, salut, c'est moi tel », puis ça me fait grand plaisir. Donc, toute cette réorganisation du monde autour de vous, de faire les priorités, et il ne faut pas du tout rester dans une bulle en disant « je veux continuer à faire tout ce que je faisais avant ». Ça ne peut pas fonctionner. Vous allez être brûlé comme personne handicapée visuelle. Il faut mettre vos priorités et miser sur ces priorités-là. C'est la meilleure façon pour pouvoir vivre une vie saine en comprenant que c'est pas tout. Par exemple, je vous donne un autre exemple aussi simple. Moi, je lisais je ne veux pas faire des...
Vous lisiez les journaux.
Merci beaucoup. Je lisais le journal à tous les jours. Maintenant, je lis juste le samedi. Je fais comme une petite analyse. Souvent aussi, on m'appelle, t'as su, il y a une bombe quelque part. Bon, OK, vous comprenez, maintenant, on est dans un monde tellement, malheureusement, mais tellement... alors, je vais un peu sur... une des médias que j'utilise pour voir c'est quoi la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne lis plus les nouvelles. Donc, il faut vraiment choisir. Je me fie plus au monde qui sont autour de moi, qui me racontent ça s'est passé, mais je garde toujours un œil. Par exemple, une fois par semaine, le samedi, je lis le journal.
Monsieur Jade, vous êtes une inspiration tout à fait extraordinaire. Vous demeurez avec nous parce qu'on va rencontrer d'autres invités au cours des prochaines minutes, mais ne bougez pas, demeurez avec nous. On est de retour dans quelques instants. De retour à notre émission Point de vue, une présentation de la Fondation de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et à chacune de nos émissions, nous recevons des gens qui œuvrent à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et Diane, je pense que c'est une belle façon de faire connaître les services de l'Institut. Est-ce que vous pouvez nous présenter notre invité d'aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer Mme Sylvie Auclair, qui œuvre à l'Institut Nazareth et Louis Braille depuis 7 années maintenant. Elle est coordonnatrice des services de réadaptation en déficience visuelle pour la Montérégie, Montréal, Laval et les services surspécialisés. Bonjour, Mme Auclair.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être démystifier un peu quels sont les services de l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Alors, les services de l'Institut Nazareth et Louis Braille, eh bien, écoutez, il y a toute une gamme de services, mais j'aurais tendance à les résumer en disant que peu importe l'intervenant professionnel qui se présente et qui intervient, vous savez, ça commence toujours par une évaluation. On commence par évaluer avec la personne, notre usager qui nous a été référé, quels sont ses besoins, ses situations. Nous, on appelle ça des situations de handicap. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce que la personne n'est plus capable de faire, mais qu'elle faisait avant quand elle avait sa vision? Et là, on essaie avec elle d'évaluer et de choisir quel est le plus important, après ça, d'intervenir. Évidemment, pour pouvoir intervenir, parfois, il faut adapter. Adapter que la personne, elle s'adapte à faire les choses autrement ou bien adapter tout son environnement. Ça prend un environnement un petit peu particulier, pas tellement scientifique, là, mais ajusté. Exemple, quelqu'un qui a toujours été brouillon dans la vie ou qui éparpille toutes ces choses, là, vous comprendrez que c'est difficile de se retrouver quand on ne voit pas. Fait qu'on va d'abord, mon Dieu, commencer par enseigner un petit peu d'ordre. Et ça, bien, en réadaptation, ça veut dire d'apprendre à faire les choses différemment. Alors, c'est comme ça dans toutes les sphères de la vie de la personne, que ce soit un enfant, que ce soit un jeune étudiant, un travailleur, est-ce qu'il est capable de faire le même travail qu'avant en fonction de à quel moment il a perdu la vue? Et la même chose pour nos aînés, d'être en mesure de poursuivre les activités qu'elles ont toujours faites et affectionnées. Ça, c'est notre grand travail. Évidemment, avec nos grands spécialistes, là, il y a des spécialistes qui se retrouvent, vous savez, comme partout dans le réseau, là, quand c'est des travailleurs sociaux ou des psychologues, des ergothérapeutes, ceux-là, on les connaît assez bien. Par contre, on a des spécialistes qu'on appelle spécialisés en déficience visuelle, donc les spécialistes en orientation mobilité et les spécialistes en réadaptation en déficience visuelle, eux, ils vont adapter leur stratégie d'intervention en fonction des problématiques qu'ils vont rencontrer avec les usagers. En gros, là, c'est beaucoup notre travail. Mais évidemment qu'on ne fait pas ça juste avec la personne. On le fait avec aussi sa famille et on le fait dans le milieu de vie de la personne. Donc, si la personne est à l'école, on va faire une formation, de la sensibilisation auprès des autres écoliers, des étudiants, auprès des professeurs. Puis si c'est au travail, c'est la même chose. On va faire le même travail dans tous les milieux et les environnements avec que ce soit les gestionnaires, les patrons ou les collègues de travail. Et aussi, dans notre grand système de la santé, fait que quand c'est des personnes qui sont hospitalisées dans les hôpitaux de courte durée ou de longue durée, en résidence pour personnes âgées, on va aller aussi faire de l'enseignement puis de la formation auprès, ne serait-ce que dans les cafétérias pour dire, bien, quand vous placez un plateau devant une personne qui a une baisse de vision, bien, il y a des petits paramètres. On a des napperons en exemple type pour dire, bien, voici, puis comment vous identifiez pour que la personne se retrouve dans son assiette. En gros, c'est, on travaille aussi avec tout notre milieu. On va faire de l'enseignement. Beaucoup, on va aller dans les milieux scolaires et on va contribuer à faire connaître les services qu'on offre, mais aussi les professions qu'on représente auprès des milieux scolaires de cégep, puis aussi secondaire et beaucoup université, pour faire connaître davantage nos professions, mais aussi sensibiliser l'ensemble des intervenants professionnels en santé à la déficience visuelle et la réadaptation. En gros, là, on fait beaucoup ça. On va donner beaucoup de conseils, évidemment, dans tous les milieux, puis grand public. Il y a aussi tout le volet de l'accessibilité. Vous savez, quand on se promène dehors, bien, en ville, que ce soit en milieu rural, bien, il y a certaines notions d'accessibilité qu'on doit tenir compte. Donc, les feux sonores, on s'en occupe, on va donner des conseils, on a des fiches techniques pour aider à l'accessibilité des bibliothèques, des piscines, des arénas, de tous les milieux. Et on essaie de sensibiliser aussi les villes, ça a l'air de rien, parce qu'il y a certaines tendances à la mode, notamment les rues partagées. Mais ça, ça peut être un problème et un grand défi pour une personne qui a une déficience visuelle, qu'on côtoie des piétons, des vélos et des voitures sur la même voie, là, bien, il n'y a pas les mêmes repères. Et aussi la tendance écologique, environnementale à les voitures électriques, les vélos électriques, les vélos même pas électriques, ils font pas de bruit. Nos personnes avec une déficience visuelle ne les entendent pas. Donc, on travaille à sensibiliser les villes sur les notions d'accessibilité pour la situation d'handicap au niveau visuel. Ça, ça fait un petit peu toute la différence. Ces spécialistes-là, ils sont au sein de notre organisation, sous notre gestion. Puis, évidemment, on a aussi tout le service à la communauté, vous savez, les organisateurs communautaires qui vont sensibiliser l'ensemble de nos partenaires et ceux qui ne nous connaissent pas au service, à la gamme de services que nous, on offre.
Ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que souvent, la majorité des gens pensent que l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est pour les aveugles uniquement. Et quand vous nous parlez de tous les services qui sont offerts, c'est assez hallucinant ce qui est proposé.
Effectivement, l'appellation aveugle, pour nous, ça prend une autre définition dans le sens où la majeure partie de nos clients ont plutôt une basse vision. Donc, il leur reste ce qu'on appelle un résidu visuel. Et des fois, les familles vont nous dire, « Bien, je comprends pas. Elle dit qu'elle voit pas, mais elle est capable de ramasser le fil à terre. » Oui, parce que sa pathologie fait en sorte qu'il y a une partie qu'elle ne voit pas dans son œil, mais il y a toute une autre partie qu'elle voit. Et dans cette partie-là, c'est là qu'elle est capable de ramasser son fil. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne verra pas et les risques de chute sont immenses.
Madame Auclair, avec le développement technologique qui va très vite, est-ce que ça va influencer les outils qui seront offerts à ces gens-là?
Ah oui, ça va avoir une influence, mais ça l'a déjà, une influence positive marquée. Premièrement, au niveau de la socialisation, vous savez, c'est normal maintenant, on dirait que le téléphone cellulaire, il fait partie de la main. Alors, pour une personne avec une déficience visuelle, d'apprendre à utiliser toutes les composantes sonores, le petit GPS, les synthèses vocales dans le téléphone cellulaire va venir donner des aides et du soutien à la personne avec une baisse de vision, mais ça paraît pas dans la société. C'est beaucoup moins gênant que de se promener avec une canne blanche. C'est un grand problème. Il faut les faire cheminer à accepter leur situation d'handicap, mais qui, aux yeux de la population générale, ne se voit pas. Alors, de s'afficher avec une déficience visuelle, c'est un grand cheminement à faire. Il faut les aider et les soutenir. On les accompagne, mais la technologie fait en sorte de diminuer cet impact-là, ce qui fait qu'on se promène avec un téléphone cellulaire ou bien l'utilisation d'une tablette qu'on peut grossir avec nos doigts va faire en sorte de briser les barrières de communication et faire en sorte que c'est comme monsieur, madame, tout le monde, comme les voyants. Alors, ça a un impact majeur, ça. Il y a d'autres types de technologies, là, je pourrais vous dire ce qui s'en vient, mais notamment les technologies les plus courantes, là, font en sorte aussi que nos jeunes étudiants vont pouvoir utiliser avec des synthèses, des logiciels et des synthèses dans leur ordinateur vont faire en sorte qu'ils sont capables de suivre comme les voyants. Ils n'ont plus besoin, vous savez, de traîner des chariots de papier. C'est le livre braille, ça. Mais ça prend beaucoup de place, le papier braille. Alors, nos jeunes étudiants, bien, c'est comme s'ils se sentent comme leurs collègues. Hein, ils sont comme les autres étudiants, ça ne fait pas de différence. Ils ont accès à un ordinateur avec les logiciels qui leur permettent de suivre leur formation, leur cours, avec un sac à dos comme le collègue. Alors oui, ça fait une grande différence et c'est très positif cet impact-là.
Est-ce que la clientèle est en croissance?
Mais comme la démographie actuelle, en fait, notre clientèle est en croissance chez les aînés, évidemment, parce que c'est ça dans notre société. Par contre, je vous dirais qu'avec les traitements actuels, parce que la pathologie la plus courante en volume chez les aînés, c'est la dégénérescence maculaire. Et ça, il existe des injections, des traitements. Et maintenant, depuis qu'ils sont offerts par la RAMQ, là, la Société d'assurance maladie du Québec, gratuitement. Ça a fait en sorte que ces usagers-là, maintenant, sont plus longtemps avec des traitements. C'est comme si on les a pu... Il y a 5 ans, on les recevait tous là, dès le début, mais maintenant qu'ils reçoivent ces injections-là, on va les recevoir un petit peu plus tard. Ça vient retarder l'évolution de la maladie. Mais à un moment donné, c'est un plafond, puis on les a. Au niveau des jeunes, je vous dirais non. Ça, on a un petit plateau. Alors, on est bien content parce qu'on ne veut pas avoir des jeunes enfants puis des jeunes bébés qui naissent avec des problèmes visuels. Mais par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est au niveau du cerveau. Le cerveau vient nous jouer des tours. Alors, quand le cerveau ne donne pas la bonne réponse à l'œil, on a l'impression qu'il y a une distorsion. Et ça, c'est un nouveau phénomène qu'on est en train de voir apparaître. Le neurovisuel qu'on appelle, ça, il y a une émergence importante. Là. On surveille ça, on est à l'affût, là, mais c'est les grandes tendances.
Est-ce qu'il y a des hypothèses de cause pour cette nouvelle tendance?
En fait, effectivement, il y a une effervescence au niveau de la recherche dans tous les pays. Là, c'est assez international. Il y a toutes sortes de recherches qui se font. Il y a des hypothèses, mais c'est plus... C'était présent, puis on le savait pas, on ne connaissait pas. Et maintenant, on les repère. Et là, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, bien, on est en train de bâtir des protocoles d'intervention, de faire des recherches, mais vraiment, on ne les fait pas seuls, on les fait avec d'autres pays internationaux, mais on est tous rendus à peu près à la même heure, mais on surveille donc l'émergence de cette nouvelle clientèle-là, qui était présente, mais peu connue, et chez nos aînés, évidemment, considérant la démographie.
Il nous reste à peine 60 secondes. L'Institut Nazareth et Louis Braille, ses 150 ans d'existence, c'est une réputation internationale.
Effectivement. On a la prétention, puis parfois on n'a pas juste la prétention, d'être le chef de file, de faire de la recherche sur les émergences, sur toutes les technologies, les implants et justement tout l'aspect du neurovisuel. Quand des fois on se compare, on se console, mais je peux vous dire que quand on se compare, on se dit « mon Dieu, on a l'impression qu'on en sait plus que les autres ». Alors, on est un petit peu prétentieux, mais c'est pas juste prétentieux. On participe à des grandes recherches et aussi on éveille les chercheurs sur des nouvelles avenues. Et tout ça pour le bénéfice de nos usagers.
Bravo.
Madame Auclair, merci d'être venue à notre micro. On prend une petite pause et on est de retour tout de suite après à votre émission « Point de vue ».
Vous écoutez Point de vue avec Michel Poulain et Diane Felice.
Alors, ma chère Diane, nous avons toujours le bonheur à chacune de nos émissions de recevoir la marraine de la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, Mme Pauline Martin. Bonjour Pauline.
Bonjour Michel, bonjour Diane.
On peut peut-être faire un petit retour sur la mission de la Fondation en vue.
En fait, tout l'argent qu'on ramasse, Michel, par nos activités, ça sert à financer les projets puis les appareils qui ont tous pour but de favoriser une grande autonomie aux personnes de tous âges, en fait, qui ont une déficience visuelle. Et bien évidemment, de cette façon-là, réduire l'impact de leur déficience dans leur vie personnelle et professionnelle, leurs loisirs, leurs déplacements, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, effectivement.
Maintenant, l'ampleur, dans le courant de cette émission, de cette série d'émissions, on va parler très régulièrement de l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais c'est beaucoup de monde. Il y a une desserte importante.
Ah oui, oui, oui. Bon an, mal an, on pourrait dire qu'il y a plus de 9000 personnes qui reçoivent des aides techniques de l'Institut. Et tu as 6000 personnes aussi qui sont dans des services de réadaptation. Les personnes de 75 ans et plus représentent à elle seule, le plus fort pourcentage d'usagers avec plus de 3 000 par année. On a 17 % de notre clientèle qui sont entre 45 et 64 ans et on prévoit aussi une augmentation. Est-ce que ce sont les appareils électroniques qui vont amener ça, effectivement, l'usure des yeux et tout ça? Ça pourra faire l'objet éventuellement d'une autre chronique.
Oui, parce que parfois, on a l'impression que c'est uniquement les aveugles, enfin les gens en cécité totale, ou les personnes âgées. Mais
C'est beaucoup plus que ça, parce que la déficience visuelle, ça peut arriver à tout âge. On a parmi notre clientèle, d'ailleurs, on a 7 % de 0 à 17 ans. On a 28 % de gens de 18 à 24 ans et 64 % pour les 65 ans et plus. On estime aussi qu'une personne sur neuf âgée de plus de 65 ans est touchée par une déficience visuelle. Et chez les personnes âgées de plus de 75 ans, c'est une personne sur quatre.
C'est énorme.
C'est énorme. Oui, tout à fait. Puis l'Institut, évidemment, prend en charge beaucoup ces personnes-là. Quand j'ai visité, moi, ces départements-là, il y a une question de sécurité, évidemment. Mais il y a une question aussi, on parlait d'autonomie, de leur permettre de vivre leur vie, de faire leurs activités le plus longtemps possible. Alors, si on revient dans les chiffres, Michel, on a près de 140 000 Québécois qui ont une déficience visuelle. Ça veut dire ça, plus de 2 % de la population. Puis la moitié d'entre eux, si on calcule bien, ont moins de 65 ans. Puis en 2005, on prévoyait que d'ici 2026, il y aurait une augmentation canadienne de 52 % du nombre de personnes atteintes par des troubles visuels significatifs. Et pour les personnes de 75 ans et plus, ben, ça va jusqu'à 72 %.
D'où l'importance de faire cette chronique, ou enfin de faire cette émission aussi pour sensibiliser les gens, que les gens prennent conscience de ça et aussi que... les gens sortent de leur solitude.
Oui, tout à fait. Puis notre émission, en fait, s'adresse aussi, bien sûr, aux personnes qui vivent avec la déficience visuelle, mais beaucoup leur entourage. Parce que toute l'information qu'on donne ici, si vous avez une personne autour de vous qui hésite à s'informer, ben, c'est une façon aussi de l'amener à aller chercher les services dont elle a besoin, de les identifier, ce que fait l'Institut, d'ailleurs. Il y a un des projets, en fait, on parlait des investissements faits à cause de la Fondation. C'est un simulateur de conduite automobile. Ça, je l'ai vu, c'est absolument fascinant. Pour les personnes qui sont en basse vision, il y a des personnes qui peuvent avoir un permis de conduire restreint. Ça peut être étonnant. Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où tu as des problèmes de déficience visuelle, c'est fini. Tu ne peux plus conduire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, le service de recherche de l'Institut a réalisé en collaboration avec le CAE.
Oui, qui est une organisation qui réalise des simulateurs d'avions.
Exactement. Alors, voilà. Ils ont travaillé avec les chercheurs de la Fondation En Vue et ils ont conçu un simulateur de conduite automobile. Jusqu'à maintenant, on a 40 personnes qui ont obtenu leur permis de conduire restreint et qui ont évidemment retrouvé de cette façon-là beaucoup plus d'autonomie. Les cours, en général, sont offerts à des cohortes d'environ 6 à 8 personnes. C'est d'une durée d'à peu près 6 mois. D'ailleurs, il faut se qualifier. Et en passant par l'Institut, évidemment, vous aurez toutes ces informations-là. Et une fois que tout le travail de l'Institut est fait, il y a une collaboration qui est faite avec la firme technique qui, elle, va compléter la formation au niveau de la sécurité routière et de la conduite automobile pour permettre à l'usager de le faire en toute sécurité et de se sentir à l'aise. Parce que, autant pour lui que pour les personnes qui pourraient être accompagnées. Alors, ces personnes, pour le moment, là, ne conduisent que le jour. Et en ce moment, on travaille fort pour essayer de trouver des outils pour permettre la conduite de nuit.
D'ailleurs, on va revenir à une prochaine chronique, Pauline, concernant justement la conduite automobile et ce que les gens doivent savoir, enfin, sur les personnes qui sont en déficience visuelle totale ou partielle, par exemple, pour traverser la rue et tout ça. Ça fera l'objet d'une chronique particulière. Parce qu'on manque de temps, malheureusement, ma chère Pauline. C'est tellement intéressant ce que vous nous dites qu'on est déjà rendu à la toute fin de notre...
Je vous remercie de me trouver intéressante.
Alors, ce qu'il faut dire aussi concernant le permis de conduire, c'est que à la suite de la formation qui a été faite en laboratoire avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, il y a la formation qui est faite avec technique.
Oui.
Et par la suite, les gens passent leur permis à la Société d'assurance automobile
Exactement.
Du Québec. Donc, tout est fait selon les règles de l'art.
Tout à fait.
Alors, à la semaine prochaine, Mme Martin.
Merci. J'ai encore plein de choses à vous dire. Je vais revenir, je pense.
D'accord. Nous sommes de retour avec notre invité, M. Dory Jade.
M. Jade, Mme Auclair, en début d'émission, nous parlait des services offerts par l'INLB, dont vous avez été certainement, vous avez bénéficié de ces services-là. Vous voulez nous en parler?
Oui, absolument, avec grand plaisir. Le service que l'Institut Nazareth et Louis Braille offrent, c'est un service, je dirais, humain et qui touche tous les aspects d'une personne qui a perdu la vision. Je vais commencer, comme je vous ai expliqué au début, ça commence par si vous voulez appeler ça la phase psychologique ou psychosociale, j'étais en dépression. Donc, on a commencé à me dire, ben, va consulter un médecin. Donc, juste ça, aussi simple que ça paraît, vous n'êtes pas capable de le faire tout seul. C'est impossible. Surtout quand vous êtes dans le bain, dans le problème. Maintenant, les services sont très larges et je vais essayer de les décortiquer en ondes pour vraiment... parce que je sais que d'autres personnes pourraient demander un des services, mais elles ou ils ne sauraient pas c'est quoi. Ça commence par la mobilité. Il y a une personne qui vient chez vous à la maison puis qui va regarder vraiment est-ce que votre maison est bien adéquatement adaptée pour vous, pour que vous ne tombez pas ou vous pouvez faire ce que vous aurez à faire au cours d'une journée normale. Et madame vient de parler de la cuisine. Ça, c'est essentiel. Il faut juste comprendre que, par exemple, de mon côté, je mettais toujours mon café dans une tasse bleu marin. C'était juste parce que j'aimais le bleu marin. Mais ça, c'est la pire chose qu'une personne avec une vision doit faire parce que je me suis fait échapper le café très souvent. Après, j'ai compris qu'il faut mettre quelque chose de contraste dans du blanc pour qu'au moins, tu vois que ça monte. Okay?
Donc vous vous êtes brûlé à quelques reprises.
Ah oui.
Ça, alors, les détails,
alors oui. Ça, c'est des petits oui. détails qu'on ne voit pas. Mais je vais vous expliquer aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus graves. Je suis tombé 3 fois avec 3 fractures, 3 fois à l'hôpital, et c'était long à chaque fois, 3 à 4 mois de période pour reprendre ça. Ça, c'est parce que moi, j'ai la déficience que j'ai, c'est un point noir au milieu de l'œil. Et ce que ça fait, c'est que vous pensez que vous voyez juste flou, mais en fait, vous ne voyez pas l'obstacle. En d'autres termes, je suis tombé souvent à cause que je ne voyais pas qu'il y avait de la glace ou de la neige ou c'est sec. Donc, je suis vraiment tombé, vraiment, je me suis fait mal. Le genou et la cheville. Maintenant, pour les services. Donc, tout ce service de mobilité va éviter toutes ces chutes, par exemple, que j'ai eues. Toutes ces petites... des petites choses qu'on vous donne. Par exemple, au toucher, vous pouvez juste mettre sur les... des petits autocollants qui sont embossés et vous pouvez les toucher. Vous pouvez savoir c'est quoi. OK? Ainsi de suite. Après ça, ça sort plus sur le travail. J'ai eu un service... avant d'aller là, j'ai eu le service de mobilité qui m'a accompagné en plus avec la canne, parce que si oui, porter une canne, c'est quelque chose, mais comment l'utiliser, comment que la canne va répondre, comment elle va lire l'information. Moi, j'appelle ça lire l'information parce que pour moi, elle me lit qu'est-ce qu'il y a par terre. Parce que sinon, je frappe l'obstacle, puis je le vois pas, puis je trébuche. Okay? Donc, c'est tout ça. Après ça, on va au travail. Une équipe exceptionnel, ils ont fait quelque chose que moi, personnellement, je ne pouvais pas faire pour moi-même. Ils ont fait ce qu'on appelle une évaluation des compétences. Je sais faire des choses, mais je ne sais pas les mettre en valeur pour un employeur. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé beaucoup avec moi. J'ai eu le service d'une psychologue. Et vous savez qu'au Québec, et ce n'est pas caché, c'est pas facile d'avoir accès à une psychologue dans notre système de santé. C'est long, les attentes, tout ça. Moi, vu que ma situation, c'était à travers les yeux, j'ai eu affaire à une psychologue. C'était vraiment génial. J'ai repris l'amour de ma famille, l'amour de la vie. Je me considère une personne choyée par la vie. Je me suis considéré comme ça toute ma vie, même avec un handicap présentement. J'ai toujours fait ce que je dis aux personnes autour de moi, ce que j'aime. Toujours, toujours, toujours. J'étais presque jamais forcé à faire quelque chose et je déteste être forcé à faire quelque chose. J'ai toujours fait ce que j'aimais dans la vie, au travail, à l'école, dans ma vie, avec ma partenaire, avec mes enfants, j'ai toujours choisi ce que je voulais. Ça, c'est rare. C'est pas tout le monde qui a ce privilège, je dirais. Alors, au niveau du travail, ils étaient là. Quand j'ai sorti mon CV ou mon curriculum vitae, c'était vraiment fantastique. Je déposais des demandes pour des postes adéquats. J'ai jamais diminué la valeur que je cherchais en termes de poste, de niveau de recherche, à cause de ma vision. Au contraire, c'était comme un atout en disant, je ne vois pas, mais je suis capable de vous offrir ceci.
Est-ce que c'est là que vous avez décroché votre emploi comme président-directeur général de l'Association des professionnels en immigration?
Effectivement. C'est à travers ce processus-là, j'avais déposé plusieurs demandes. Certainement, je ne vais pas nommer des employeurs parce que pour des raisons connues. J'ai déposé des demandes dans des entreprises très bien connues au Québec, au Canada, à travers le Canada. Mon bilinguisme m'aidait beaucoup, mes compétences. Et finalement, j'ai eu, avec l'aide de la personne qui a travaillé avec moi, deux offres d'emploi. Et l'ironie du sort, c'est que j'ai eu deux offres d'emploi la même journée. C'était un vendredi. Puis j'ai passé la fin de semaine à penser puis à consulter avec des amis pour voir qu'est-ce que je choisis.
Pour faire le bon choix.
Exact. Et finalement, j'ai choisi celle-là parce que les deux étaient de valeur, je dirais. Et les deux avaient des avantages considérables. J'ai choisi celle-là. C'est un emploi que j'apprécie de ma part et je peux vous dire que je suis très apprécié par mon employeur et ce que je fais et par la communauté que je sers. De plus, il faut aussi aller en hors de l'emploi. Le service de l'INLB est crucial parce qu'aussi il fonctionne avec les personnes autour de moi. Une chose qu'ils ont fait qui est très importante, que, par exemple, les personnes proches de moi, mon frère, mon épouse, me disaient toujours, on ne comprend pas. Parce que, comme j'avais dit auparavant, les personnes qui ne voient pas, c'est des personnes dans la société, leur handicap n'est pas vu. Ce ne sont pas des personnes qui ont un handicap mental que vous pouvez voir en disant « Oh, OK, cette personne a un retard, je vais m'adapter à la personne. » Ou une personne sur une chaise roulante, dites « OK, je comprends, je vais m'adapter à cette personne-là. » Vous voyez, une personne, si elle ne porte pas une canne, en principe, vous n'allez pas remarquer que c'est une personne qui ne voit pas. C'est très difficile. Donc, vous allez penser que oh, ça fonctionne correctement. Et vous, comme individu dans la société, c'est une chose. Mais les gens proches de vous vont penser pareil.
Monsieur Jade, je dois vous arrêter parce que le temps file rapidement et je voudrais qu'on revienne à ce que vous parlez au niveau de l'intervention de l'INLB au sein de votre famille. Mais on va passer à la chanson, Diane, parce que nos invités amènent avec eux une chanson qui est importante pour vous. Pouvez-vous nous présenter cette chanson?
All right. Excusez mon anglicisme. regardez, ben, je pense pas que personne ne reconnaissait la Édith Piaf. Puis moi, Piaf m'a inspiré pendant beaucoup de temps dans ma vie, depuis aussi ma jeunesse. J'ai toujours écouté et comme la chanson le dit, je ne regrette rien et tout ce que j'ai fait, même avec toutes les étapes que j'ai passées. Je ne regrette rien, puis je continue, je fonce. Et si vous voulez la faire passer, ça me fait grand plaisir de l'écouter.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Alors, chers auditeurs, c'est une chanson qui est vraiment aux couleurs de notre émission, Diane.
Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Jade, avant cette chanson, vous avez commencé à nous parler du soutien que vous avez reçu de l'INLB, mais pour les membres de votre famille. Donc, plus concrètement, comment ils sont intervenus?
OK, ben regardez, en fait, en premier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que juste pour clarifier, cette rencontre particulière avec ma famille, on m'a demandé de ne pas être là. OK, il faut juste clarifier ce point-là. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et je vous dis ce que ma famille m'a raconté. Ils étaient choqués après. Et je vous explique. L'INLB est venu avec des équipements parce que, comme je vous ai dit, la famille ne comprenait pas comment moi je voyais. C'était ça un point très difficile parce qu'eux, ils me voyaient faire beaucoup de tâches, mais souvent je disais ça, je ne peux pas le faire. Mais comment se fait-il que tu peux faire ça? Oui, mais ça, je peux, l'autre, non. Et c'est très compliqué à faire comprendre des gens proches de vous. Et ils leur ont mis des équipements. Et moi, je n'étais pas là, OK? Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais ils sont sortis un peu émus de l'expérience parce que je les ai vus après une ou deux heures plus tard. Il y avait des larmes dans les yeux, puis... ils leur ont mis en situation, ils leur ont mis un casque avec comment de plus proche que moi je voyais. Puis je pense que c'était très touchant pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est très important. Et de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé. La demande d'aide est rendue presque instantanée. Parce que eux, pour un moment donné, là, très court, peut-être, je ne sais pas combien ça leur a passé, 5 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas exactement. Et ça a fait tout un changement dans la famille. Tout le monde maintenant comprend que, oh, c'est ça. C'est un peu comme une personne qui a soit des maux de tête ou un autre type de sentiment quelconque qui pourrait vous le transmettre pour sentir ce que la personne sent. C'est un peu ça qu'ils ont fait, puis ça a vraiment, vraiment fonctionné. Ça, c'est vraiment juste un petit exercice, mais qui est très important, à mon avis. L'autre, c'est le suivi avec l'assistante sociale ou l'intervenante sociale. C'est... Je vais vous expliquer aussi une chose, si vous permettez. Je suis une personne, je vais le dire tel quel, mal organisée, mais qui sait très bien quoi faire parce que j'avais toujours le privilège d'avoir quelqu'un de toutes sortes dans la vie régulière ou la vie professionnelle qui gérait mon admin. OK. Rendu là... J'ai plus ce privilège Parce qu'avant, je mettais mon stylo sur la table, je faisais autre chose, puis en repassant, celui-là est sur la table. Je regarde la table, je le voyais. Mais maintenant, si je mets le stylo sur la table, je m'en vais, je reviens, puis je ne sais plus il est où. Ce n'est pas parce que j'ai oublié qu'il est sur la table, mais c'est très difficile de le retrouver. Je vulgarise pour vous aider à comprendre. Donc, il fallait faire tout un changement de mode de vie à mettre tout ensemble et devenir organisé. Donc ça, c'est déjà beaucoup pour une personne qui fonctionnait comme moi, je fonctionnais avant. Okay? Moi, je fonctionnais, par exemple, en disant, bon, quand je sors de la maison, j'ai besoin de trois choses qui soient toujours avec moi, comme ça. Donc, mon portefeuille, mon téléphone, puis les clés de mon auto. Puis c'est comme ça que je fonctionnais. Maintenant, ça ne marche plus comme ça parce que les trois items, ben, je ne les utilise plus, les clés de auto, je ne conduis plus, mais les trois items ou les deux items que j'avais dans la tête sont plus faciles, ne sont plus accessibles comme avant. Donc, il faut que je les garde tous ensemble. C'est pour ça que peut-être vous avez remarqué, je porte un sac qui a tout à l'intérieur, puis je cherche dans le sac. Des choses comme ça, l'intervenante avec mon épouse m'ont aidé à arriver là. Mais c'est beaucoup de travail aussi. Les enfants. Les enfants sont rendus dans une étape après certainement des rencontres et moi avec la psychologue, mon fils et tout ça, à, entre guillemets, être fiers de l'handicap de leur père, dans un sens où leur père continue à faire presque comme tous les autres papas, même avec son handicap.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Mon fils a 11 ans et ma fille 3 ans. Comme par exemple, je vous donne un exemple, vu le service adapté et que Maria, ma fille, tous les matins, je l'emmène à la garderie avec le service adapté. C'est un peu la petite princesse. Puis je l'ai fait, je lui ai, en disant, je lui ai vendu l'idée, je vais utiliser les termes marketing pour ma fille. Je lui ai dit, bon, regarde, papa a un chauffeur. Toi, tu vas avec le chauffeur. Parce que c'était difficile de faire comprendre à Maria que tu ne vas pas comme avec papa dans son auto en arrière. Vous comprenez le concept d'un voyage régulier? Mais j'ai tellement vendu l'idée qu'on est rendu à une étape. Quand sa mère lui dit, viens, on va aller ensemble, elle dit, non, moi, j'attends le chauffeur de papa. Donc, c'est des choses comme ça, mais il faut les prendre telles quelles. Je vous le dis, c'est très difficile. Mais une fois qu'on essaye de vivre avec ça de cette façon. Comme par exemple, mon fils à 11 ans, vous savez, le début de l'adolescence, je veux ça maintenant. Okay? Mais vous savez qu'avec papa, le maintenant n'existe plus. Alors, ce qui arrive, par exemple, je veux aller au handball, parce qu'il fait du handball et puis du patinage de vitesse comme activité ou de la natation. Je veux aller, d'accord. C'est quelle heure ton... Ben, c'est 9 heures. OK, on va être là à 9 heures. Non, non, mais quand est-ce que je veux aller? Non, non, tu vas être là à 9 heures. C'est comme ça que ça fonctionne avec le service du chauffeur. Et bon, à quelle heure j'attends? Ben, tu vas attendre entre 8h30 et 9h moins le quart, dépendamment de la licence. Donc, tout ça, c'est à cause de l'INLB que ces petites choses ont commencé à se replacer dans notre vie.
Il nous reste à peine, Dori, 2 minutes à l'émission et on a des questions fétiches, Diane, pour la fin de l'émission avec nos invités. Alors, je vous laisse aller.
D'accord.
Diane. Non, allez-y.
Ah oui, oui.
Oui, absolument.
Alors, notre question fétiche, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Regardez, vous pouvez me souhaiter de garder le moral. C'est juste ça. Parce que je vous dis une chose, je fais partie d'une équipe de recherche sur ma maladie avec les États-Unis et le Canada. Je continue là-dessus. Je sais qu'il n'y aura pas de cure avant 15 à 20 ans minimum. Donc, c'est juste l'engagement que j'ai présentement qui peut me laisser continuer. Il n'y aura pas de cure. Et pour c'est juste souhaitez-moi ça.
Et pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est aux prises avec votre situation ou une situation semblable? Qu'est-ce que vous lui dites?
Communiquez avec l'INLB et précisez ce que vous voulez. Essayez de savoir ce que vous voulez de ça. Ce que vous voulez de votre vie. Il faut comprendre que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Qu'est-ce que vous voulez garder de ce que vous faisiez? C'est quoi le plus important pour vous? Ça dépend de l'âge, des conséquences de vie. Choisissez les 3-4 choses que vous aurez aimé le plus garder et vous devez oublier le reste.
Dorijad, merci infiniment d'être venu à notre émission. C'était Point de vue, proposé par la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres invités, dont notre marraine Pauline Martin et un membre du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ici Michel Poulain.
Diane Felici.
Bonne semaine, mesdames, messieurs.
Point de vue est présenté par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille en collaboration avec Canal M.